Bonjour, c'est jeudi 28 juin et, enfin, c'est vendredi, voilà, et juillet qui approche à grands pas. De nouveau, un long congé qui s'annonce devant nous, ce congé de la fête du Canada qui s'en vient. Il faut dire que certains sont déjà en vacances et oui, la fin des classes qui s'est quand même terminée officiellement depuis une semaine pour les jeunes, mais le personnel enseignant qui sera officiellement en vacances à partir d'aujourd'hui, bien des gens qui quittent pour un repos bien mérité, mais il y a ceux aussi qui s'apprêtent à déménager, hein, c'est la grande migration annuelle sur fond de crise de logement. Cela dit, tout au long de cette saison estivale, je vous convie à notre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi entre midi et 13h. Ici Chantal Lavoie, entourée d'une belle équipe. Aujourd'hui, on termine la semaine en belle compagnie pour l'heure qui suit. Bienvenue à Aime l'été! Et la personne avec qui nous passerons l'heure, c'est nul autre que José Lito Michaud, avec qui on parlera non seulement de carrière, mais surtout et principalement de ce qui a toujours animé l'animateur en lui, ce qui le fascine par-dessus tout chez les gens, ce qui a été son moteur. Il sera question de différence et de singularité. Et parlant de différence, c'est notre collaboratrice à la recherche, Clarence Robitaille-Meloche, qui viendra nous parler d'autisme, mais aussi de son propre parcours de vie, vivant elle-même avec une neurodivergence. Et comme on est vendredi, que nous sommes l'été, nous allons donner une place au cinéma, mais tout particulièrement au Cinéparc. On va s'entretenir avec Christine Matters du Cinéparc Saint-Eustache. Au cours de la prochaine heure, soyez donc des nôtres à Aime l'été! Et Nathalie Barrette, chef recherchiste, qui est ma complice cette année avec moi en studio. Bonjour Nathalie.
Allô Chantal, comment tu vas?
Ah, très très bien, et ça termine bien la semaine. Tu vas nous parler, toi, de la représentation à l'écran du handicap, et en même temps, tu vas nous glisser un mot sur le film Un petit truc en plus.
Ouais, que je suis allée voir cette semaine, et j'ai adoré ça.
Bon, ben moi aussi j'ai adoré.
Oui.
Je l'ai vu la semaine dernière. Et tu connais bien notre invité d'aujourd'hui. On va l'accueillir à l'instant. L'animateur, auteur, conférencier, agent d'artiste, mais aussi à une certaine époque, agent d'artiste à une certaine époque, mais qui le deviendra aussi, qui l'est devenu avec un autre poulain, comme on peut dire, oui. Alors, bonjour, José Lito Michaud.
Bonjour, Chantal.
Alors,
bonjour,
José Lito, oui, c'est ça. On parle, bien sûr, de Monsieur Langevin, Luc Langevin, que tu vas représenter.
Ah, j'ai commencé.
C'est ça, c'est déjà intensément effectif.
Ça a pris 15 ans avant que je dise oui de nouveau à ce métier-là. Tu sais, il ne faut jamais dire jamais. Et dans ce cas-là, j'ai dit oui parce que c'est un ami de 10 ans. Puis à un moment donné, il me dit « j'ai besoin de toi ». Puis j'ai fait « non ». Ça a pris au moins 2 mois, mais je l'ai aidé quand même. Puis à un moment donné, j'ai fait « ok, pourquoi je le ferais pas ?» Fait que j'ai essayé d'organiser mon horaire, parce que je travaille beaucoup, pour essayer d'être là. Puis je suis très, très content de ma décision. Très, très content.
Ouais, c'est ça. En fait, on le décrit comme… c'est un illusionniste.
Oui.
Alors, c'est vraiment quelqu'un qui a déjà commencé une carrière en France, mais vraiment, là, il s'agit de mousser davantage. Écoute, c'est quelqu'un qui pourrait parcourir le monde.
Enfin, parcourir le monde. Ouais, c'est la raison pour laquelle
moi,
j'ai
voulu... Oui, t'as envie de voyager. Hein,
j'ai envie de voyager, c'est ça. À un moment donné, j'étais avec sa blonde et lui, puis il me dit « Pourquoi t'as décidé de revenir au management? » Je dis « Égoïstement, parce que j'ai le goût de revivre en France.
» C'est très drôle. Ben pourquoi pas? Alors, évidemment, plein de projets, de toute façon. Tu as décidé d'arrêter la télé comme animateur.
Oui.
Mais
oui.
Attention, tu as plein de projets oui. qui sont en route, plein d'idées. Et,
mais c'est tout un deuil à faire quand même.
Oui, mais
bien
sûr.
De se dire
mais...
que je ne ferais plus ça, là, c'est comme ça m'a saisi hier, peut-être ou avant-hier, quand quelqu'un m'a dit « on ne verra plus du tout ». J'ai dit « non, plus du tout ». J'ai fait « ok, là, c'est vrai que c'est définitif ».
Mais on entend ta voix.
Oui, bien sûr.
Les nouveaux balados là, qui vont être en ondes très bientôt sur différentes plateformes. Alors, parle-nous-en de ces balados.
Bien, je vais commencer, je ne voudrais pas être indiscret parce qu'il y a longtemps que je voulais faire un balado, mais pas le faire comme les autres. J'essaie de trouver mon ton, ma manière. Je fais ça souvent. On va parler de singularité tantôt.
Oui, c'est ça, c'est le sujet.
C'est le sujet du jour, je pense.
Oui.
Bien, moi, je pense que j'aime beaucoup, je donne beaucoup de conférences. Aux conférences, à chacune des conférences, je dis toujours, trouvez votre singularité. Trouvez là où vous êtes meilleur que les autres. Trouvez là où vous pouvez faire une grande différence. Et la différence peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Et moi, je regardais les balados, entre autres celui de Marie-Claude Barrette qui le fait magnifiquement bien, de bien d'autres, là, parce que ça fait longtemps que ça existe. Puis je me disais, j'ai pas envie d'être autour d'une table en train de poser des questions. Je l'ai fait, moi, 5800 fois. Fait que j'avais plus envie de ça. Puis je me suis dit, j'aimerais mieux plutôt entrer dans le champ d'activité des gens, dans un lieu inédit. Puis il y allait avec une question très précise pour moi. Je ne voudrais pas être indiscret, ça ouvre une porte à... Mais je vais l'être.
À l'indiscrétion.
Je vais l'être à l'indiscrétion, effectivement. Mais en même temps, tout en étant quand même pudique, c'est-à-dire on pose des questions qui sont nécessaires. C'est les réponses, comme disait Oscar Wilde, qui parfois le sont davantage, indiscrètes. Fait que c'est ça. Dans ce sens-là, non, je suis très content de faire ça. Ça va arriver au mois de juillet. Là, la bande-annonce tourne actuellement, qui m'oblige à aller travailler bientôt. Mais on ne me voit pas.
Non,
on
mais
m'entend.
On entend la voix.
Parce que je
quand
tiens
même.
La
Alors,
caméra.
Tu seras bien présent. Parce que, en fait, en Nathalie, on se souvient tous d'On prend toujours un train pour la vie.
Ben, oui.
Cette série-là, Passage obligé, le livre aussi, hein,
que j'ai
qui traite
à la
du deuil.
Oui.
bien sûr, Nathalie qui a vécu un deuil quand même important dans sa vie. Alors, c'est ça. Donc, c'est sûr que c'est vraiment, ça nous a beaucoup, beaucoup marqué. Mais là, vraiment, tu vas continuer un peu dans le même sens, c'est-à-dire que, là, évidemment, on ne fera pas ta bio de façon exhaustive, mais tu veux vraiment nous amener dans ce qui, toi, t'as toujours animé le plus. C'est vraiment, c'est ça, aller chercher à la fois la part de lumière, mais la part d'ombre, les failles, enfin, rendre humaniser, au fond, tes invités.
Totalement.
C'est ce que tu as toujours voulu faire. Là. Donc, aller chercher la singularité chez eux.
C'est drôle parce que quand j'ai parlé avec Luc Langevin au départ, bon, c'est un ami de 10 ans, mais quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est tes faiblesses. Puis il m'a dit, je comprends pas. Parce que ça, pour moi, c'est avec ça qu'on va travailler davantage. Et j'essaie... Puis tu sais, il y a deux types de management. Il y a le management qui dit, c'est le plus bon, c'est le meilleur, c'est le plus grand. Moi, je suis pas comme ça. Moi, c'est toujours, les autres ont leur place. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour apporter ta place et ta distinction? Donc, jamais je... Tu sais, il y a beaucoup de managers dans la vie qui vont descendre les autres artistes du même acabit. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est la force de Choquette, quelle est la force de quelqu'un d'autre et quelle est ta force à toi maintenant. Encore une fois, la singularité. Et moi, j'aime beaucoup les failles des gens. Parce que dans les failles des gens, il y a un peu ce que disait Leonard Cohen quand il disait c'est à travers les failles que la lumière jaillit. Ben moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Je n'ai peut-être pas mieux cité, mais en tout cas, c'est ça l'essence du message. Et c'est ça que moi, j'ai envie de faire quand je fais du management. C'est ça que j'ai envie de faire quand j'écris des livres. J'écris mon cinquième livre actuellement, où je reviens sur une part de mon enfance. Je reviens au moment où... c'est vrai, c'est une primaire. Je reviens au moment où je suis... où on me fait faire une photo. Je suis dans une famille d'accueil, une des trois que j'ai fréquentées. Puis on demande aux 12 enfants qui sont là de faire une photo devant un mur extrêmement impersonnel. Puis on me dit, il faut absolument que la photo, vous soyez beau parce que c'est comme ça qu'on va vous adopter ou pas. Que vous soyez adoptable. Ah. Et moi, je lui réponds à la dame à 4 ans et demi, j'allais avoir 5 ans pratiquement, j'ai dit, est-ce que je vais être choisie, madame? Et c'est le titre du livre, Madame, est-ce que je vais être choisie?
Ah, quelle...
Et c'est la question qui a... Et d'ailleurs, en dessous, c'est la question qui a dicté ma vie. Toute ma vie, je me suis demandé si j'allais être choisie, même quand je l'étais choisie.
C'est ça. Donc, c'est finalement tout ton parcours qui est derrière ça, finalement.
Totalement.
Ça part de ton enfance, en fait, tout ce parcours singulier que tu as eu. C'est ça qui t'a... ça a été fondateur, c'est ça qui a été identitaire à la fois.
Mais en même temps, il faut cesser de toujours penser que le passé... C'est les bouddhistes qui disent ça. Il faut embrasser parfois la souffrance.
Ouais.
Il faut l'embrasser, c'est-à-dire l'accueillir, lui donner une valeur à ça. Moi, je ne serais pas même individu sans cette enfance terrible. Jamais, jamais. Je ne sais pas ce que j'aurais été avec la popularité, moi. Est-ce que j'aurais été chiant? Est-ce que j'aurais été condescendant? Est-ce que j'aurais été le même gars aujourd'hui bienveillant que je suis puis attiré vers l'autre? Je ne pense pas. Donc, un jour, quand la popularité est arrivée, moi, pour moi, c'était 37 ans à l'époque où j'étais à Star Academy comme directeur, j'ai remercié la vie, moi, d'être ce que j'étais. J'ai dit, ah, je suis content d'être comme ça parce que je ne suis pas sûr, moi, j'avais eu ça à 22 ans, que je n'aurais pas été dans la revanche de la vie, tu sais, en se disant, maintenant, je vaux quelque chose par rapport à avant où elle me traitait comme pour un rien, donc elle me traitait mal. Donc, c'est ça. Moi, je pense que je remercie la vie d'avoir cette différence dans l'éducation.
C'est ça que j'allais te poser comme question. Donc, tu sens que tu es différent depuis tout le temps?
Ah, mais moi, quand j'étais petit, je savais bien que je... Que ma nature, parfois exubérante, parfois créative, parfois émerveillée, ça ne correspondait pas du tout dans le milieu où j'étais, surtout pas à Matane. Donc, je me suis tu longtemps, moi. Je me suis tu longtemps pour ne pas déranger, pour entrer dans le moule. Et puis, tous les gens qui étaient près de moi le voyaient bien qu'il allait se passer quelque chose. D'ailleurs, ils disaient tous, on savait que tu allais devenir connu, mais c'était pas parce que je voulais devenir connu, c'est que je voulais sortir de là et faire quelque chose de ma vie. C'était bien plus ça que d'être connu. Connu, ça, c'est ce qui vient avec, mais jamais j'ai voulu devenir une vedette pour devenir une vedette. Ça m'intéressait pas, ça. Mm-hmm. Pas du tout.
Non, c'est ça. Et donc, en fait, tous les obstacles, finalement, ça peut être toujours vu comme un tremplin vers une réalisation, vers la création, l'innovation. Enfin, totalement. Je pense que c'est ça le défi.
C'est pour ça que j'ai appelé un de mes livres auquel tu faisais référence tout à l'heure, qui est « Passage obligé », c'est quoi qu'on fasse. Il y a des passages obligés sur notre route, dont les deuils, dont la disparition des gens qu'on aime, dont un deuil des fois d'une carrière, le deuil d'une amitié que tu croyais éternelle. C'est ça la vie, quoi qu'on fasse. Okay? Et c'est pour ça que j'aimais tant la symbolique du train quand j'ai proposé ça à Radio-Canada, qui avait dit non au départ. C'est important. C'est Dominique Chanot qui y a cru et qui a dit, qui était patronne à l'époque, qui a dit « faut qu'on le fasse ». Parce que pour moi, un train, c'est ça. C'est une destination précise, mais tu sais jamais ce qui va se passer en route.
C'est vrai.
Et j'aimais ça. Et j'aimais l'idée que le train continue à avancer durant qu'on s'arrête sur un événement qui est figé dans le temps. Et ça, j'aimais l'idée de ça. Pour dire, tu sais, c'est Laurence Jalbert qui disait un jour, « Ma mère est décédée et la Terre continue de tourner quand même. » Et moi, je voulais que le train roule quand même si on parle d'un événement qui était figé dans le temps. Parce que quand on parle du deuil, entre autres, c'était ça au début le sujet, des prédilections, ben on se dit « Ah, mon Dieu, c'était terrible cette journée-là. » Et nous, on doit avancer quand même. C'est ce qui est très, très dur. Nathalie en sait quelque chose parce qu'elle a perdu son conjoint, mais le grand amour de sa vie. Et ce qui est toujours très difficile, c'est la Terre tourne pareil. Il y a encore un soleil le matin, il y a la lune le soir. Et toi, tu es figé dans ta peine. Mais ce qui est formidable du deuil, je le dis, c'est formidable du deuil, c'est qu'à un moment donné, une journée, tu pleures moins. La cinquième journée, tu pleures encore moins. Et un jour, tu t'étonnes à pleurer plus du tout. Et là, tu te sens coupable. Là, tu as peur d'oublier l'autre. Tu te sens coupable. Tu te dis, j'ai moins pleuré que d'habitude. Et là, l'absence devient une présence. Là, tu sens l'autre. Tu sens l'autre qui t'accompagne. C'est fascinant, la résolution d'un deuil. Mais quand on passe à travers, c'est
beau,
Nathalie,
c'est terrible. Hein, oui, mais ça, j'ai déjà entendu ce discours de José Lito. Il m'a pris dans ses bras pour me dire ça. Ouais. Mais moi, ce que je me dis, c'est que le deuil, effectivement, c'est vraiment difficile à vivre, à traverser. Mais on dirait que la peine est la seule chose qui me reste. Le seul lien qui me reste avec Pierre, c'est le chagrin.
Non. Vous savez pourquoi?
Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut l'entretenir? Est-ce qu'il faut l'entretenir?
En fait, il ne faut pas l'entretenir, mais c'est difficile de couper les ponts. Puis de dire, je vais arrêter d'avoir de la peine. Moi, la peine, c'est ce qui me garde en contact avec Pierre. C'est la seule chose que j'ai dit.
Sinon, tu as l'impression de l'oublier.
Oui, un peu.
C'est exactement ça. Ouais. Le plus dur, quand on est rendu... Et on a eu beaucoup de discussions ensemble là-dessus, parce que c'est mon ami, puis je l'aime, puis je connaissais tellement Pierre, j'aimais tellement Pierre. Mais... C'est parce qu'on a peur de trahir l'autre. Ça s'appelle la loyauté envers l'autre. On se dit, si je ne le peur plus, ça veut dire qu'il n'y a plus d'importance à mes yeux. Et là, on tombe. Malheureusement, il y a un mot qui n'est pas beau que je veux dire, mais il y a une forme de complaisance. Pardonnez-nous.
Oui, mais tu as raison, je le dis.
Thérapeutique, on le dit, mais c'est une je te vois réagir. Ouais. Pourquoi? Parce que la complaisance, c'est aussi un réconfort.
OK.
C'est ce qu'on connaît. C'est ce qui nous fait du bien. Combien de fois j'entends des gens avoir de la peine de quelque chose, les gens disent « mais oui, reviens-en », mais en même temps, le fait de se vautrer un peu dans cette peine-là nous rassure parce que nous connaissons la douleur. C'est la fin la plus difficile à comprendre, c'est de dire « oui, mais laisse-moi ma douleur, laisse-moi ma peine. »
Il me reste ça.
Rapport avec lui.
De mon grand amour.
Alors que c'est, la plupart des gens, c'est pas ça qu'on fait, là, habituellement. On n'en parle pas, on est mal à l'aise, on veut pas raviver la douleur, on a peur de...
On a surtout peur pour nous. Mm. On a peur de ce que ça va nous faire. Moi, j'ai toujours dit, je l'avais dit dès le départ à mon amie Nathalie, je l'ai dit aussi à Isabelle Chevrier, qui a perdu son conjoint, tous les gens... J'ai dit, tu vas voir, au début, il y a plein de gens, puis du coup, il y en a de moins en moins. Puis quand tu évoques le sujet du disparu, je te garantis que ça veut passer à autre chose parce que ça ne veut pas y aller. Et c'est normal.
Mais on a une amie commune, Isabelle Lajeunesse, qui a perdu François Guy. Ben c'est un peu le même phénomène. C'est exactement le même discours.
Même
c'est pareil.
On a l'impression qu'après un certain temps, les gens oublient. Ouais. Les gens ne veulent pas en parler parce qu'il y a un malaise aussi. Tu te dis, est-ce que je peux en parler de Pierre? Je sais que nous, on en parle beaucoup.
Beaucoup. Parce que là, il est très présent quand on en parle.
C'est ça.
Il est très, très présent. Puis on ne parle pas de lui au passé. On dit, ah, Pierre serait content de ça. Il serait heureux de ça. Il y a eu 60 ans aujourd'hui. On l'amène dans le présent. Mais il a fait quelque chose, je ne veux pas tout dévoiler, mais Pierre a fait quelque chose d'exceptionnel. Et c'est ses retrouvailles avec les gens qu'il aimait avant de partir. Je trouverai toujours que ça restera un moment important, ne serait-ce que pour nous égoïstement, mais certainement pour lui. Parce que dans mon livre « Passage obligé », il y avait Dominique Bertrand qui disait « La seule certitude que j'ai dans la mort de mon chum, parce que lui est allé sur le cours de squash, puis il est mort sur le cours
tout
de
à
squash. »
Tout fait, subitement, c'est
subitement,
ça.
Subitement, tu te souviens, il a dit « J'étais à jour avec lui ». Et j'ai l'impression que le fait d'avoir eu cette rencontre avec Pierre quelques jours avant sa mort, dans mon cas, moi et de tous ses amis qui y étaient, il y avait une mise à jour qui était là.
Mm.
Et Pierre, je pense, s'est assuré qu'il y a une mise à jour avec tout le monde.
Ouais.
En lui disant ce qu'il pensait d'eux, de l'amour qu'il lui a... Pierre avait une pudeur, mais en même temps, il avait une générosité extraordinaire du cœur. Fait que c'est pour ça. Moi, j'essaie d'en parler au présent. Puis je sais que Nathalie a fait beaucoup de chemin dans son deuil. Ouais. Puis ça, c'est formidable.
Et on peut... D'abord, c'est très personnel, là, ce dont on parle. Mais sauf que ça nous aide un petit peu à vivre chacun quand on a ces témoignages-là. Alors, puis toi, t'en as eu tellement. T'as tellement reçu de témoignages. Alors, à quel point ça t'a permis de grandir encore davantage? Évidemment, je te poserai pas la question s'il y a une entrevue en particulier, parce que là, tu en as tellement eu, ce serait une question très difficile à poser.
Non, mais peut-être une qui vient en tête.
Ah oui, c'est vrai?
C'est toujours Isabelle Gaston qui a perdu ses deux enfants.
C'est bien trop vrai, t'as raison.
Ça restera toujours. Son mère avait tué ses deux enfants.
Oui, je me souviens de cette entrevue.
Ça, je me souviens de ça beaucoup. Difficile. Mais c'est étrange que ça fait. Moi, j'étais un... Bon, j'ai jamais dit ça nulle part. Je vais vous dire, une des raisons pour laquelle j'ai... Vous, c'est vous trois. Une des raisons pour laquelle j'ai quitté le train, ben, j'aurais pu continuer pendant des années. Hein, j'avais un contrat presque à vie. Et j'exagère à peine. C'est que je portais la peine des autres. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'empathie. Donc, qui se transforme en sympathie.
OK. Donc, alors, tu prenais ça un peu sur tes épaules.
Moi, j'avais l'impression que, tout d'un coup, j'étais rendu, que je ne riais plus. Mm. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai? Puis ma femme me dit, t'as tellement d'histoires dans ton cœur que tu portes. Ouais. Et qui ne t'appartiennent
plus. Ça, c'est un autre défi de pouvoir quand même dissocier.
Totalement.
Te dissocier de ça. Écoute, c'est drôle parce que l'autre côté de la vitre en régie, on a Philippe Lapointe, notre grand patron. Et c'est vraiment un des gars qui t'a aidé beaucoup à faire de la télé. C'est lui qui t'a permis de faire la télé.
C'est plus qui m'a aidé à faire la télévision. C'est que... ouvre bien tes oreilles, Philippe.
Il t'a donné tes premières jobs. Là.
C'est-à-dire que Philippe Lapointe avait vu chez moi quelque chose. Donc, souvent, Philippe m'appelait comme directeur, à ce moment-là, il devait être VP de TVA, il m'appelait souvent, m'a demandé mon avis, parce qu'il disait « t'es l'homme qui regarde le plus de télévision que je connaisse au Québec ». Et c'est vrai que je regarde beaucoup la télé, je suis beaucoup en ce qui est le magazine, je lis beaucoup, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe, ici comme ailleurs. Et à un moment donné, il m'a appelé, puis il m'a dit « j'aimerais ça qu'on parle ensemble de ce que tu vois, puis tout ça ». Puis là, il me pose plein de questions, puis je donne mon analyse, mais je comprends pas qu'il m'offre une job. Je le comprends pas. Fait que j'arrive, voiture. Puis je dis, qui c'est qui vient de me dire là? Je comprends pas. Il venait de m'offrir le show de fin de soirée. Et moi, j'avais rien dit, au contraire, contre François Morency, que je trouvais très, très, très bon. Même, je me demandais pourquoi il ne serait plus là. Mais je sais que c'était une question de budget, là. Mais j'aimais beaucoup, beaucoup François Morency. D'ailleurs, j'avais dit beaucoup de bien de lui. J'avais dit, peut-être que son métier premier, c'est pas interviewer, mais il y a tellement quelque chose de singulier.
Mais ça, c'était pratiquement l'impresario, le producteur en toi qui parlait, bien sûr.
Qui porte à la défense de l'autre. Et là, il m'a dit, c'est toi que je veux là. Il a vu quelque chose en moi et ça a changé ma vie.
Alors, on le salue, Philippe. Chose certaine, on va... là, je dois passer la parole à notre... collaboratrice à la recherche, on va en parler avec elle dans quelques instants, de la singularité, parce qu'elle elle a aussi une singularité, et les limitations qui sont des facettes, pas les limitations, mais souvent on parle de handicap ici à Canal M, ces limitations, tout ce qui touche le handicap, c'est une facette de la société, de la diversité humaine, et c'est très riche, et ça peut nous apporter énormément, et alors on en parle dans quelques instants avec Clarence.
J'ai très hâte de la rencontrer pour de vrai.
À Alors, on accueille à l'instant notre autre collaboratrice à la recherche, Clarence Robitaille-Meloche. Bonjour, Clarence.
Bonjour.
Et tu es formidable. Tu es vraiment quelqu'un... tu es une membre de l'équipe absolument adorable. Nous sommes très, très fiers de t'avoir à nos côtés.
Et chanceux de t'avoir à nos côtés.
Oui,
chanceuse.
Tout à fait.
Oui,
tout à fait. Et là, on parle de singularité. On parle ici, évidemment, à Canal M de handicap. Et bon, je disais que c'était une facette de la diversité humaine. Et toi, tu présentes quand même une particularité aussi. Alors, tu vas nous en parler. Tu as une neurodivergence.
Exactement. Je suis autiste Asperger. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, le terme Asperger est un peu controversé parce que les historiens ont découvert que Asperger, le scientifique qui a donné son nom à cette variante de l'autisme, était en fait un nazi convaincu.
Donc c'est... Ah oui, c'était ça l'histoire.
Exactement. Ouais. Donc, c'est un peu moyen de lui donner ce nom-là.
Oui.
Parce que, bon, c'est rare que les gens veulent être associés au nazisme. Mais le terme politiquement correct, pardon, qui a été retenu, c'est autisme invisible.
Que tu n'aimes pas comme expression.
Mais non, tu n'aimes pas, c'est vrai. Tu
non,
n'aimes pas ça.
Autisme invisible ou autisme caméléon.
Oui.
C'est un terme avec lequel, personnellement, j'ai un peu de difficulté parce que ce terme-là a été choisi parce que cette forme d'autisme, parce que l'autisme, c'est un spectre, il n'y a pas de case, c'est vraiment...
C'est large.
C'est large, il y en a beaucoup.
Il y a un éventail très grand.
C'est un éventail très grand. Et donc, du fait que c'est un grand éventail, l'autisme invisible sur l'éventail, c'est celui qu'on voit le moins parce que ça sous-entend qu'il n'est pas visible pour quelqu'un de l'extérieur. Moi, j'ai de la difficulté avec ce terme parce que, pour moi, mon autisme, il n'est pas invisible. Il est là. Il est avec moi au quotidien. Il m'accompagne partout. Et oui, il impacte mon quotidien. Donc, pour moi, non, il existe. Il
mais
est
en quoi
invisible.
L'impact... excuse-moi, mais en quoi il... C'est très intéressant ce que tu viens de dire par rapport à visible et invisible. Souvent, on dit ça... pardonnez-moi cette parenthèse, mais elle est importante. Il y a eu beaucoup de campagnes publicitaires à un moment donné sur les maladies mentales. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit là. Et c'était la maladie physique versus la maladie mentale. Il disait, à un moment donné, tu te souviens, quand il mettait, par exemple, un plâtre, il mettait quelque chose, c'était visible, il disait, voilà. Et quand tu faisais une dépression, tu n'avais pas le droit. Tout ton mal devenait invisible. On dit ça souvent pour les soldats qui reviennent de l'Afghanistan.
Les chocs post-traumatiques.
Les chocs post-traumatiques. La même chose, on réclame le côté visible de l'invisible. Mm-hmm. C'est très intéressant ce que tu dis. En quoi ça t'impacte dans la vie de tous les jours?
En tant que personne autiste, j'ai un développement cognitif qui est différent. Là où moi, ça m'affecte, c'est surtout dans mon développement social. J'ai énormément de difficultés à établir des liens avec d'autres personnes. J'ai de la difficulté à comprendre les sous-entendus ou à saisir le non-verbal des gens, ce qui fait que je suis une personne qui peut être naïve ou qui peut se faire avoir plus facilement. Donc, ça impacte aussi mon niveau de confiance envers les gens parce que je me dis, moi, je sais que je peux me faire avoir plus facilement. Comment je peux être sûre que la personne n'essaie pas de me mentir ou de m'arnaquer?
Et comment faites-vous pour savoir qu'elle ne veut pas t'arnaquer ou pas?
Oh, des fois, je ne le sais pas. Mais il y a des moments où, quand je suis moins certaine, ce que je fais, je fais comme beaucoup d'enfants. Donc, j'appelle ma mère. Et je lui raconte ce qui s'est passé et ce que j'ai compris. Et elle me dit, et c'est elle qui va me conseiller, non.
Oui, ça s'appelle la validation, c'est très intéressant. Ça veut dire que tu ne peux pas lire entre les lignes, c'est ça que je comprends?
Exactement. J'ai énormément de difficultés à lire entre les lignes, ce qui est très drôle parce qu'avant de venir étudier en journalisme à l'UQAM, j'ai fait un baccalauréat en études littéraires.
Ben oui.
Qui consiste à lire entre les lignes.
Est-ce que tu as réussi à le faire?
On va dire que j'ai réussi à 75 %.
Okay.
Parce que l'avantage de la littérature, c'est que c'est une forme d'art. Et que comme tous les arts, c'est très subjectif. Donc, même si ma façon de lire entre les lignes est différente de celle des autres quand j'y arrive, elle est quand même valide parce que je peux l'appuyer avec différents arguments.
Oui, toutes les matières d'interprétation.
C'est intéressant, oui.
Exactement. Donc, j'y arrive.
Mais donc, tu interprètes tout un peu différemment, au fond. C'est ça, la difficulté.
C'est peut-être elle qui a raison.
À ta façon.
C'est peut-être elle qui a raison.
Eh bien, oui.
Dans son interprétation. Est-ce que... c'est drôle parce que je connais quelqu'un de mon entourage qui vit ce que tu vis. Est-ce que tu es en mesure parfois de comprendre que l'autre a besoin d'avoir plus d'expression de toi, plus de réaction que toi?
Oui, je suis capable de le comprendre. Je ne le comprenais pas toujours quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, j'arrive à le comprendre et quand ça arrive, d'instinct, mon réflexe, c'est de faire comme le mime sur Internet d'Homer Simpson qui rentre dans les buissons par en arrière. C'est un peu le réflexe que j'ai dans ce temps-là. Mais aller voir l'autre et lui demander qu'est-ce qui se passe ou essayer de lui offrir du réconfort, j'en suis incapable. Parce que je ne sais jamais quoi dire ou quoi faire dans ces situations-là, ça me met mal à l'aise. Même si je voudrais essayer, j'y arrive pas, je fige.
Et là, on vous juge sévèrement en disant vous êtes antipathique, vous êtes empathique, c'est ça qu'on dit?
Exactement. On est jugé comme des personnes qui sont plus antipathiques ou qui ont moins d'émotions. C'est pas qu'on en a moins, on en a. Même des fois, on en a plus que les autres, mais ce ne sont pas des émotions qui sont en réaction aux mêmes choses que les autres, où on réagit différemment dans des situations données.
Donne-moi un exemple de réaction que d'autres pourraient trouver excessive et que toi, tu dis « c'est ma réalité à moi ».
Ben, par exemple, j'ai beaucoup de TOC parce qu'en tant que personne autiste, j'ai besoin que mon quotidien soit assez réglé.
Oui, des repères.
Des repères. Et j'ai besoin de pouvoir anticiper d'avance ce qui va arriver. J'anticipe tout le temps.
Tout.
C'est ma façon à moi de me rassurer.
Oui, bien sûr.
Et par exemple, un simple événement, par exemple, j'ai l'habitude de prendre tel autobus à telle heure pour rentrer chez moi. Et là, j'attends et l'autobus ne passe pas pour...
N'importe quelle raison.
Ça pourrait me déclencher une crise.
Quel genre de crise?
Ça dépend des fois. Ça pourrait me déclencher une réaction, genre je me mets à pleurer, par exemple.
Est-ce que tu finis par te raisonner?
Oui.
En disant, l'autre autobus va arriver, inquiète-toi pas, c'est arrivé auparavant, il y a 15 minutes de délai, tu peux attendre les 15 minutes encore. Est-ce qu'il y a un raisonnement comme ça qui finit par arriver avec l'âge?
Pour moi, oui. Pour des situations comme ça qui sont plus ou moins graves, oui. Mais des situations, par exemple, qui sont beaucoup plus grosses, par exemple, et qui pourraient avoir des conséquences sur moi, mais aussi sur d'autres personnes. Par exemple, on avait un travail d'équipe à remettre et on a eu un problème avec l'imprimante, donc on n'arrive pas à imprimer le travail.
Ah, je comprends.
Là, je sais que moi, ça peut m'affecter, mais j'ai peur aussi que les autres soient affectés par mon erreur et que déjà, pour moi, travailler en équipe, c'est difficile parce que j'ai de la difficulté à établir des liens avec les gens. Je me dis, ils vont être encore plus pénalisés par ma faute et ça va renforcer ma
tête d'angoisse. Dans son cerveau, quand elle se couche le soir, tu dois être fatiguée.
Oui, mais je dors jamais. Parce que, en fait, je dors jamais. Je dors très peu. Mais
ça continue à trotter dans ta tête.
Oui, mais l'insomnie, c'est caractéristique de l'autisme.
Ah, c'est vrai.
Parce qu'on overthink beaucoup.
On doit s'arrêter pour une pause, les amis.
Oh, c'est passionnant.
Merveilleux. Merci pour tes questions, José Lito. Alors, vraiment, c'est vraiment très pertinent. On sait que tu as déjà fait ça, toi, par le passé.
Une fois.
Alors, oui. Alors, on s'arrête le temps d'une pause et puis on revient tout juste après.
L'été.
Et oui, M l'été, deuxième moitié d'heure. Je suis avec José Lito, Michaud en studio, Nathalie Barrette, notre chef recherchiste, et également notre collaboratrice à la recherche, notre autre collaboratrice, Clarence Robitaille-Meloche, et qui nous parlait évidemment de sa réalité, neurodivergence. Elle nous a parlé d'autisme. Et pendant la pause, évidemment, José Lito, qui ne peut pas s'empêcher de poser des questions.
J'en pose trop de l'avance.
Non, c'est correct. Okay. C'est très, très bien. D'ailleurs, on t'a invité pour ça. C'est pas compliqué.
Non, mais la vie est drôlement faite parce que des fois, les gens viennent manger à la maison et disent « on se croirait dans le train ». Mais oui, mais c'est ça, dans la vie.
Voilà.
Je m'intéresse aux autres.
C'est ça. Exactement. Tu es curieux et tout. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait ta particularité, ta singularité.
Ah, c'est un mot que j'aime tellement.
Bon, voilà. Et puis, on parlait de la singularité de Clarence. Et puis, pendant la pause, José Lito a pas pu s'empêcher de lui demander si elle était en relation amoureuse. Alors, tu lui as répondu, Clarence, que non.
Non, je ne suis pas en relation amoureuse et ce n'est pas quelque chose que je recherche pour plusieurs raisons. Par exemple, étant donné que j'ai beaucoup de TOC et beaucoup de manie, je sais que quand je vis avec quelqu'un, ça peut être dérangeant. Donc, mes parents, par exemple, avec qui j'ai vécu pendant 23 ans, évidemment, donc de ma naissance jusqu'à le moment où je suis partie en appartement, ils sont habitués, ils le vivent bien, ça va. Mais une personne qui vient d'arriver, qui n'est pas habituée, ça peut être un choc. Et moi, ce sont des manies que je ne contrôle pas. J'ai beaucoup de TOC. J'aime organiser mon environnement comme je veux.
Est-ce que tu vas faire le deuil de l'amour à cause de ça?
Je vais finir mon propos et je vais revenir à ça après parce que c'est intéressant.
Bon,
c'est intéressant.
Mais ça, t'as placé là, ça a pris une seconde et quart, j'aime ça.
Oui. Oui, ben les Asperger sont en général très francs.
Donc, j'adore, allez-y.
Oui. Parfait.
Je ne suis pas trop de la franchise, moi.
Ben, donc, comme j'ai beaucoup de TOC de manie, je me vois mal partager mon espace de vie avec quelqu'un d'autre. Je trouve ça un peu difficile. Et aussi, il y a le toucher. Quand on est autiste, on est très facilement surstimulé. Donc, c'est comme s'il y avait trop de choses qui se passaient en même temps dans notre environnement et on n'arrive plus à le gérer. Et le toucher, ça peut être un facteur de surstimulation, ce qu'on appelle en anglais être « overstimulated ».
Ouais.
Et le toucher, ça en est. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est tactile dans la vie. Je n'aime pas ça. Donc, je m'imagine dans l'intimité avec quelqu'un et me dire, OK, là, il faut que je sois toute nue contre une autre personne, totalement toute nue, avec les organes génitaux de quelqu'un qui se frotte contre les miens. Non. Ce n'est pas possible.
Que j'aime...
cette franchise.
Voilà, moi, ça, là, Clarence, quand j'en ai invité comme toi, je finis ma journée puis je dis, bon, c'est fait, c'est réglé, on a eu quelqu'un de franc. Oui. Donc, est-ce que tu vas faire un deuil sur l'amour totalement dans ta vie?
Moi, je pense que oui. Parce que pour l'instant, en tout cas, il n'y en est pas question. Ce n'est pas quelque chose que je me sens prête à traverser.
Mais de toute façon, tu n'en souffres pas du tout.
Absolument pas.
Bon, ben voilà.
Absolument pas.
On a notre réponse.
Oui, c'est correct. J'adore comme réponse.
Et ben, écoute, et puis il y a des gens qui sont seuls et qui sont très bien d'être seuls hein, aussi, qui ne sont pas en relation amoureuse.
On n'a pas besoin d'être autiste ou non. De l'autisme pour aimer,
apprécier la solitude
et ne pas avoir à introduire quelqu'un dans notre vie, c'est sûr.
Exact.
Ouais, absolument pas. D'ailleurs, moi, je trouve ça assez triste, les gens qui ont absolument besoin d'être entourés de d'autres personnes pour être heureux, comme s'ils avaient besoin d'être validés, mais constamment, ou qu'ils ont toujours besoin... qui transmettent leur bonheur sur les autres.
Deuxième bonne réponse.
C'est bon! C'est bon!
Non, mais c'est vrai, mais pardonnez-moi. Ouais. C'est parce qu'on passe notre vie, Clarence, à essayer, tout le monde, hein, habituellement, sauf toi peut-être, mais dans la vraie vie, on essaie beaucoup d'être validé par les autres. C'est ce besoin inné de reconnaissance, on le voit assez jeune d'ailleurs, très tôt. On a besoin de dire, est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai bien fait mon ménage? Est-ce que j'ai bien fait mon lit? Donc, on est souvent conditionné dès notre jeune âge à chercher le regard d'un autre.
Tout à fait.
Et c'est étrange parce qu'on parlait avant d'entrer ensemble dans cette belle émission, on parlait de Céline Dion, de ce qu'elle vivait. Et j'ai l'impression que quand elle a pu le regard de sa mère porté sur elle et le regard de son mari porté sur elle, c'est comme si le corps disait « c'est terminé maintenant, je peux arrêter de travailler ».
Ah, c'est intéressant ton analyse de ce phénomène-là.
Parce que tout est arrivé à la mort de sa mère, qui est décédée le 17 janvier 2020. Et puis, c'est en mars 2020, au moment de la pandémie, où tout est tombé pour elle. Et moi, je l'avais dit à des gens intimes, je l'avais même dit à elle quand je l'ai pris dans mes bras, « ça va être difficile pour toi, j'ai l'impression ». Et je me souviens, donc, c'est quand on cherche... Pour nous, les gens qui faisons ce métier-là public, c'est souvent moteur, le regard de l'autre. Mais quand le regard de l'autre devient une dépendance, là, c'est là que c'est dangereux.
Oui, je comprends.
Mais je travaille au quotidien avec Clarence. C'est un grand bonheur de travailler avec elle. Elle n'a pas besoin de ça, mais je lui dis constamment à quel point elle est précieuse dans notre équipe.
Comment elle réagit, Clarence, quand tu lui fais autant de compliments?
Oh, ben moi, ça me fait toujours plaisir,
ouais,
c'est sûr.
Contente.
Ça me fait plaisir, puis je me dis, ben, tant mieux, ça veut dire que mon rapport de stage va être positif.
Elle voit ça pratico-pratique,
ben non, c'est
sûr. Mais extraordinaire, Clarence.
C'est pas extraordinaire.
Mais, au fond, dirais-tu que ta différence fait ta richesse? Tu te sens riche, autrement dit?
Oui, complètement.
Bravo.
Complètement. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui aime accentuer que je suis différente. Je peut tout à fait fonctionner, je peux travailler, je peux étudier, je peux avoir mon propre appartement, je peux être autonome complètement, voilà. Je peux avoir les loisirs que je veux. Donc, oui, mais j'aime bien, par exemple, aujourd'hui, je suis habillée de rose des pieds à la tête parce que j'aime bien utiliser, par exemple, mes vêtements pour accentuer le fait que je ne suis pas comme tout le monde.
Ah, c'est intéressant.
Mes vêtements me permettent de dire, ben, non, je ne suis pas comme vous. Et il y a des gens qui veulent bien faire et qui essaient de me dire, non, mais t'inquiète pas, t'es comme nous. Non.
Ah, c'est
non,
ça, donc tu ne recherches pas nécessairement t'as pas ce besoin de dire que t'es comme tout le monde. Bien sûr, c'est souvent d'ailleurs un enjeu pour bien des gens qui ont soit des limitations, certains handicaps, ils veulent
se fondre dans la masse,
t'as raison.
Oui, mais c'est la société qui exige ça.
Ou qui exige ça.
Mon fils, moi, a des troubles d'apprentissage importants, tu le connais, Antoine, et c'est très compliqué pour lui d'apprendre à lire, c'est la même chose, bon. Et puis, moi, j'essayais comme parent, j'essayais parce qu'on tente toujours, j'essayais de dire, pense aux petites victoires, pense pas aux autres victoires. Et Bernard Voyer disait toujours, l'alpiniste disait toujours, à chacun son Everest. Et moi, c'est très important pour moi et pour lui. Comme par exemple, là, il est devenu mécanicien, puis il excelle vraiment bien. Puis je disais encore ce matin, tous les jours, je lui dis que je l'aime, tous les jours, c'est 4-5 fois par jour, tous les jours, je dis que tel, papa, j'ai fait tantôt un changement d'huile, puis ça va bien. Je trouve que des fois, c'est des petites victoires qui amènent, et c'est d'être dans sa réalité.
Exactement.
À lui. Parce que comme parents, on veut tellement plus pour nos enfants, mais en même temps, c'est ça que lui a besoin.
Mm-hmm.
Fait que je me suis adapté à ça et je suis beaucoup plus heureux depuis que j'ai compris ça, que j'ai essayé de ne pas mettre trop d'espoir dans cet homme-là, mais plutôt de garder les espoirs qui sont réalistes pour lui.
Tout à fait. Mais là, évidemment, Clarence, tu es consciente d'une chose. Tu présentes une certaine douance. La douance peut faire partie...
Elle réagit quand même. Certaine du mot douance.
La douance fait partie du spectre,
bien
en
sûr.
Quelque sorte, oui. Alors ça, il faut le dire, ce n'est pas tous les personnes autistes qui ont le même parcours que toi et certains ont de grandes limitations. Alors c'est sûr que tu es... privilégié. Est-ce que tu aimes qu'on dise ça?
Que je suis privilégiée? Je pense que dans mon cas, c'est vrai. Donc, je peux parler pour moi, mais je ne peux pas parler pour tous les autres autistes. Pour moi, oui. Je dirais que je suis privilégiée parce que je suis capable de fonctionner avec. J'ai appris à fonctionner avec et je sais reconnaître que ça me permet de faire des choses que d'autres personnes ne pourraient pas faire. Donc, oui, je suis limitée à certains niveaux, mais pas autant que d'autres. Donc, j'ai de la chance quelque part. Je trouve que je m'en tire bien. Mm-hmm. Donc, je suis très heureuse avec ça.
Moi, j'ai une question très honnête. Comme on a quelqu'un d'honnête devant soi, c'est facile. Est-ce qu'à un moment donné, tu as maudit la maladie? Tu as dit, j'en peux plus de ça. Ma différence, j'en peux plus. Je vais être comme tout le monde. Est-ce qu'un jour, c'était arrivé ça?
Alors, maladie, non.
Je sais. Très bien. En le disant, j'ai vu ta réaction.
Non. L'autisme, ce n'est pas une maladie. C'est une neurodivergence.
Parfait. Je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un moment où ton état... Tu l'as maudit en disant, je parle plus jeune, là, j'entends. Tu t'es dit, j'aimerais tellement être ça comme les autres, ça serait moins complexe.
J'ai eu une petite période où j'essayais de me fondre un peu plus dans la masse, d'essayer de me faire aimer un peu plus des autres. Mais à cette époque-là, je n'étais pas encore diagnostiquée. Donc, okay. Je ne savais pas. Je savais que j'étais différente, mais je n'avais pas de mots à mettre dessus. Quand j'ai eu 12 ans et que j'ai été diagnostiquée autiste Asperger, c'est la meilleure chose qui m'est tombée dessus, ce diagnostic, parce que j'avais enfin des mots pour expliquer pourquoi j'étais pas comme les autres. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de vouloir plaire à tout le monde. J'ai dit, je suis différente, je peux l'expliquer, alors vous faites avec, parce que moi, je changerai pas pour vous faire plaisir, je peux pas changer pour vous faire plaisir. Tout simplement.
Ben, c'est une belle réponse. Et puis, ben, merci pour ton témoignage, Clarence. Hein, vraiment, je pense que José Lito, là, lui, on était en plein dans son champ de compétences. Oui. Oui,
merci.
Tout à fait. Alors, merci, Clarence. De toute façon, on se retrouve, nous, tout l'été. Là, on aura l'occasion de s'entretenir avec toi régulièrement. Alors, merci. Et puis là, on va parler d'un autre sujet. On va parler de Cinépark. Oh là là, c'est l'été. Alors, tout de suite après la pause. Et de ce pas, nous allons rejoindre Christine Matters. Bonjour, qui est à l'autre bout du fil, bien sûr. Comment allez-vous? On va parler de Cinépark avec vous. Bien sûr, on parle du Cinépark Saint-Eustache, notamment. Eh bien, vous allez, j'imagine, passer un autre bel été?
On aimerait ça, oui.
Bien, on l'espère. En tout cas, justement, c'est comme on disait que le Cinépark Saint-Eustache, c'est comme une espèce de machine à remonter le temps.
Oui, c'est très nostalgique. On aime beaucoup ça.
Alors, c'est vraiment parce que là, vous avez à la fois des installations rétro et puis en plus, évidemment, vous êtes à la fine pointe de la technologie aussi.
Presque. Il y a des nouvelles projections qui sont sorties. On n'est pas à ce point-là. Par contre, on est tous dans le numérique.
Alors, vous êtes un des 5 cinéparcs encore actifs. Alors, oui, c'est très nostalgique. Évidemment, bon, c'est les cinéparcs ont commencé dans les années 50. D'ailleurs, je me demande, il y a une série, je pense, qui est en onde sur Historia, sur les cinéparcs.
Oui.
Alors, vraiment à découvrir cette série-là, parce qu'on va tout découvrir, la petite histoire des cinéparcs. C'est fascinant, même qu'à un moment donné, le clergé n'aimait pas trop l'idée d'implanter des cinéparcs ici.
Bon, on sait pourquoi.
Un endroit de...
C'est l'endroit des premiers rapprochements intimes.
Et voilà.
Est-ce
voiture.
Que c'est encore ça? Est-ce que c'est encore ça, madame?
Ben, des soirées, il y a beaucoup de pluie, on se pose des questions.
On voit la voiture bouger un peu.
Oui, oui, c'est ça! Ça va jusqu'à bouger.
Mais il y a beaucoup de
familles.
Mais il y a beaucoup de familles qui vont au cinéparc. C'est ça que je disais, jeune, moi, j'amenais mes enfants, puis on en garde des souvenirs impérissables. L'expérience cinéparc, c'est vraiment extraordinaire.
Extraordinaire, oui. Puis de parents en enfants parents, puis là, quand ils sont là, la deuxième génération, ils veulent venir avec leurs enfants aussi vivre l'expérience. Donc, c'est génération en génération veulent vivre l'expérience.
Mais mon fils, moi, est allé autre jour avec une gang d'amis, ils sont s'en va au cinéparc. Lui, qui est la nouvelle génération qui regarde tous son iPhone, là, il m'a dit, j'ai tellement aimé ça, papa, je capote ce cinéparc. Je pense même que c'était chez vous, je pense.
Ben oui, parce que les gens, bon, à la fois, il y a les familles, les enfants maintenant viennent en pyjama. Ben, ça a toujours été remarqué. Mais il y a des couples qui se promènent avec leur petit verre de vin. En fait, c'est vraiment une belle occasion, finalement, de voir du cinéma. Mais pas juste ça, c'est une expérience en soi. C'est une sortie.
Vous pourrez même dire quasiment un événement.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, pendant la pandémie, hein, vous avez, c'est sûr que ça a relancé le cinéparc. Ouais. Et puis le film Barbie aussi a vraiment contribué beaucoup à la relance des cinéparcs.
Oui, l'année passée. Puis c'était un peu comique comment les gens, les filles étaient habillées un petit peu en rose. Puis un peu la nouvelle tendance de se costumer comme le film, même avec sans dessus-dessous qui vient de sortir. Il y a des gens, on se posait la question, puis là, on a fait le lien avec le film.
Bien sûr.
C'est ça, donc les gens se costument maintenant.
Un peu,
les
oui,
jeunes se costument.
Un peu, oui.
OK, OK. Mais ce qui est le fun aussi, c'est on apporte nos chaises, on s'installe dehors, la couverture, le popcorn.
Ah, on peut le faire. Moi, j'étais dans la voiture toujours.
Non,
moi.
Maintenant, non, tu peux sortir.
Ben, on a
de ta
toujours
voiture.
Pu sortir dehors. On a toujours pu amener nos chaises longues.
Ben, moi, je me souviens juste du moment où dans ma voiture, je suis bien, j'ouvre les fenêtres, puis j'écoute la radio.
Il y a des gens qui écoutaient, à moins qu'il y ait trop de maringouins ce soir-là, mais on pouvait.
Ben voyons donc,
mettre nos chaises
en fin de semaine.
Les gens sortent à l'extérieur avec leurs chaises.
Oui. Devant l'auto, on demande aux gens pour laisser de la place, pour maximiser l'espace. Mais avec les pick-up, il y en a qui se mettent un lit en arrière, puis doux, puis tout ça, puis c'est le fun à voir.
Oui. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a deux représentations.
C'est un programme
double.
C'est
encore ça, c'est des programmes doubles.
C'est des programmes doubles, oui, pour le prix de 1.
Alors ça, c'est merveilleux. On peut amener tout, et puis pas besoin de gardienne. Les enfants peuvent dormir.
Tout, c'est votre mari?
Non, mais on peut amener nos animaux de compagnie, c'est ce que je voulais dire.
Oui, c'est le mari.
L'enfant dort dans la voiture.
L'enfant dort dans la voiture, c'est vrai.
Mais dire qu'il y a eu quand même jusqu'à 40 cinéparcs quand même dans les années, à partir des années 80, là, ça a été très, très, très populaire.
Oui.
Qu'est-ce qui fait? Il y a eu quand même des conditions qui ont fait que qui ont fait que les cinéparcs sont devenus moins populaires. D'abord, il y a la construction domiciliaire, hein, ça devenait plus payant de vendre le terrain pour de la construction domiciliaire ou pour toutes sortes d'autres projets. Mais vous n'avez pas ce problème-là parce que vous avez. Puis les propriétaires de salles aussi de cinéma voyaient ça d'un mauvais œil. Mais vous êtes les deux.
Puis en même temps, les résidentiels amènent de la lumière. Donc, le film devient moins visible. Nous, vu qu'on est ici depuis longtemps, on n'a pas ce problème-là.
Voyons donc, comment
ça,
on n'a pas pensé à ça?
J'avais pas pensé à ça.
C'est vrai. Là, qu'est-ce qu'on peut voir en fin de semaine comme film?
Là, cette semaine, sans dessus-dessus. Puis là, il sort, je me souviens plus en français, Le coin tranquille.
Okay. Est-ce que c'est toujours des films qui sont récents? Ou il y a jamais des films là qui sont datés un peu. C'est toujours des films récents.
Ben, on fait un événement Halloween qui est gratuit avec des vieux films plus horreur, thriller, suspense.
Bien sûr.
Mais oui.
Je vais aller vous voir.
Ah, mais alors, c'est vraiment... Et puis, c'est ça, c'est des... là, présentement, vous êtes... pour l'été, souvent, c'est ça. C'est des blockbusters, souvent, qui sont quand même à l'affiche.
Exact.
Ouais. Oui. Et puis, bon, c'est ça. On n'a pas. Alors, on peut apporter notre popcorn, tous nos. On peut apporter du vin, on peut apporter de la bière, ça, les boissons pour les enfants et tout. Ça a toujours été. Ça continue comme ça.
Oui. On est ouvert aussi le restaurant.
Oui, vous avez votre restaurant.
C'est important de le mentionner.
Ben oui,
on ne va pas perdre les ventes de popcorn là-bas.
Mais vous parliez aussi de l'importance du cinéma québécois parce que vous m'aviez dit au téléphone lors de notre pré-entrevue que quand vous avez eu des Bon Cop, Bad Cop, il y a eu ces films-là où vous avez eu beaucoup, beaucoup de monde, des gens qui fréquentaient en...
Les films québécois, c'est bon pour nous aussi.
C'est ça,
les
hein?
gens aiment ça venir voir les films québécois au cinéparc. Bon Cop, Bad Cop, c'était un qu'on a eu longtemps. Ça, c'était un qui m'avait marqué comme l'écran 1, c'est notre plus grand écran, puis on a eu pendant plusieurs semaines.
Alors, c'est ça, vraiment. Alors, c'est un gros vendeur aussi, hein, les films québécois, effectivement, qui fonctionnent, surtout les films famille, là. Alors, écoutez, famille, ben, oui. C'est très intéressant, et puis j'invite tout le monde à aller voir cette série sur Historia, parce que ça. Et je pense même qu'on va peut-être faire une entrevue là-dessus, parce que c'est un beau sujet.
Très
et
beau
vous
sujet.
Souvenez-vous de l'époque où, finalement, les jeunes embarquaient dans le coffre arrière de l'auto, là, pour.
On se cachait.
Pour se cacher, ou pour pas payer là, oui. le prix d'entrée. C'est fou, hein?
Oui. C'est plus comme ça, madame, hein?
C'est encore comme ça.
Ça n'a rien à changer, finalement.
Non. C'est nostalgique.
C'est ça. Puis on conseille aux gens, bien sûr, d'arriver toujours un peu à l'avance. C'est sûr, peut-être arriver une heure à l'avance, là, justement, pour profiter, oui. faire que les enfants s'amusent, que les enfants jouent aussi autour
soccer,
de la voiture.
Oui, baseball. Puis il y en a qui se promènent avec leurs enfants, main dans la main. Tu sais, c'est beau à voir.
Bien, voyons donc. On y va la fin de semaine.
On y va tous, en fait.
On n'oublie pas notre chasse moustique, quand même. Ça, c'est toujours important.
Oui, très important.
Alors, et puis donc, deux films pour le prix d'un, c'est magnifique. Ben écoutez, c'est vraiment chouette. Et puis, vous n'avez jamais pensé fermer le cinéparc?
Non.
Non, ça a toujours été assez vivant.
Pour nous, ça fonctionne parce que c'est pas comme le cinéma. Nous, c'est événementiel, donc c'est une expérience. Contrairement, je ne veux pas rabaisser les cinémas, mais c'est pas la même expérience.
Exactement.
Ça d'un bon été, surtout.
Et puis, oui. Il est loin le temps où on accrochait le petit oui. haut-parleur à côté, tu sais, sur notre vitre oui, d'auto. Oui. Là, ça ne fonctionne plus du tout comme ça pour ceux qui ne seraient pas allés depuis longtemps. Mais en tout cas, chose certaine, c'est vraiment une belle expérience. Et puis, des fois, on oublie, parce que ce n'est pas juste avec les enfants, mais ça peut être justement avec son chum. Ça peut être, enfin, une autre expérience oui. que l'on peut vivre au cinéparc. Merci avec beaucoup, Mme Matters, d'être venue nous en
merci.
Parler. Et d'ailleurs, justement, je pensais à ça. Pendant la pandémie, ou enfin post-pandémique, il y a eu aussi des artistes, des humoristes qui se sont produits dans les cinéparcs.
Oui, oui.
C'était une belle façon, justement, de donner des spectacles alors qu'on ne pouvait plus remplir nos salles parce qu'avec la pandémie, alors ce n'était plus possible. Mais les cinéparcs ont pris la relève. C'est drôlement intéressant.
C'était vraiment, oui, puis tout le monde dans le retour, donc chacun avait leur bulle.
Oui, parce qu'on a parlé souvent de la bulle. Hein?
Ouais, la bulle, la fameuse bulle.
Oui. La bulle, oui.
Christine Matter, ça a été un plaisir et puis bon été à vous.
Merci
bon
à vous.
Été.
Bon été.
Bon été.
Bon été.
Merci, bye-bye.
Alors oui, ça nous a rendu nostalgiques. D'ailleurs, notre réalisateur à la mise en onde, là, enfin notre technicien à la mise en onde, nous a mis une petite musique nostalgique. Hein,
ben oui, pour, je suis partie dans mes pensées, moi.
Oui, pour, c'est ça, ça nous rappelait notre bon vieux temps au cinéparc. Bon, cela dit, on va continuer notre sujet. On n'a plus beaucoup de temps parce que José Lito, hein, ben, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis là, ben, il y a
Nathalie. Tant mieux, parce qu'il y a des invités qui n'ont rien à dire.
C'est ça. Nathalie, aussi, tu as des choses importantes à nous dire.
Oui, ben en fait, je veux juste rappeler que c'est la 10e édition cette année de la Transat Québec-Saint-Malo à Québec.
Oui,
puis je trouve
événement
ça important.
De voile.
Oui, oui, je trouve ça important d'en parler parce que, écoute, depuis 2016, il n'y avait pas eu de Transat
à
Québec.
C'est aux 4 ans, puis après ça, 2020, c'est la pandémie.
La pandémie, exactement. Alors, il n'y en a pas eu. Ah, ah ouais. Et là, José Lito, je ne sais pas si tu es déjà allé.
Ben oui, moi, c'est Québec 84, moi.
Ah, c'est ça.
Wow. Là, moi. Oh, là, là.
Alors, les festivités se déroulent jusqu'au 30 juin, puis je voulais en parler parce que ça achève. Donc, les gens, allez-y, il n'est pas trop tard. Puis on parle d'un événement légendaire là, qui est ouvert au grand public.
Ben oui, parce que le départ a lieu le 30, autour de 14 heures.
Oui, exactement.
Alors, vraiment, c'est vraiment cette traversée là, mythique. Et ben c'est, mais... je pense, moi, je me suis intéressée à l'époque là, des Florence Artaud, là, qui est malheureusement décédée aujourd'hui. Et puis, elle est décédée en plus d'un accident d'hélicoptère. C'est fou, hein, quand même.
C'était diffusé à Radio-Canada.
Oui,
avant,
tout à
semble,
fait. On avait de belles diffusions, peut-être sur des postes plus spécialisés. Oui, on a encore.
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste la voile, c'est qu'il y a des expositions, des films, il y a des visites de bateaux, il y a des spectacles. On en a fait un festival jusqu'au départ. Alors, à ne pas manquer à Québec, donc la 10e édition,
à partir d'aujourd'hui.
À partir d'aujourd'hui, oui, jusqu'au 30 juin.
Et le grand départ à 14 heures, il y a beaucoup de fébrilité dans l'air, apparemment, du côté du port de Québec. Là.
Tellement beau.
Le port de Québec, les abords du fleuve, là, c'est la fête.
C'est
tout
magnifique.
À fait. Ouais. Bon. Alors, et puis, ben, tu vas nous parler éventuellement aussi de cinéma, mais tu as quand même un petit film en lien avec un sujet dont tu vas reparler.
Oui, oui, je vais en reparler, mais j'en ai parlé, je suis allée voir le film Petit truc en plus. Et puis j'ai adoré. Et ce film-là, dans ce film-là, il y a 11 personnes, 11 comédiens qui vivent vraiment avec une délimitation. C'est un superbe film.
C'est le plus grand succès de France depuis longtemps.
Oui, là, tu vois, ils ont 8 semaines, ça fait 8 semaines. Et
8
puis,
millions, je pense.
Ils sont rendus pas loin de 10 millions.
10 millions.
C'est le plus grand film des 10 dernières années en France.
Ce qui veut dire quoi?
Ben,
c'est que quand on touche à l'âme, ça fait du bien.
Les gens sont intéressés, puis les comédiens là-dedans qui sont... Il y a des trisomiques. Ces gens-là sont tellement attachants, mais ils sont d'un naturel fou. C'est incroyable.
Oui, t'as le...
Alors, j'en reparlerai parce que je veux...
personne autiste. En fait, il y a une belle variété, une belle brochette, entre guillemets, de comédiens.
Oui, puis la semaine prochaine, je reparlerai de la représentation du handicap au cinéma parce qu'on a eu des films marquants, mais joués par de vrais comédiens.
Et ça fait du bien.
Ouais. Alors que là, c'est des vraies personnes en situation de handicap. C'est ça la différence.
Ça me fait penser au film Gabriel, ici, Louise Archambault.
Tu sais, quand les comédiens, c'est pas parce qu'ils sont pas bons, les comédiens, mais quand ils doivent être coachés par des gens qui vivent avec les limitations ou en situation de handicap, ça fait un peu étrange, alors que maintenant, on peut avoir des gens qui jouent leur propre
c'est
rôle.
C'est tant mieux.
Oui, tant mieux.
Alors, c'est merveilleux. Bon, des petites questions comme ça qu'on va te poser, là.
Oui.
Puis tu y vas, évidemment, selon... Si tu n'as pas de réponse, tu nous le dis, on passe à une autre. D'abord, tes projets pour l'été.
Bien là, je travaille beaucoup de travail. Je travaille beaucoup sur Luc Langevin. Je travaille sur mon livre que je termine à la fin septembre. Je commence mon balado, je ne voudrais pas être indiscret. Et je veux aussi me reposer à travers ça.
C'est tout un défi.
Oui.
Et puis, tu as un projet avec Mélissa Bédard aussi qui s'annonce. Ça, tu dois trouver un producteur ou enfin
Un producteur, c'est moi, mais un diffuseur, ça annonce bien.
C'est bon.
Ah,
alors, as-tu des habitudes l'été, une tradition la particulière, que ce soit avec tes enfants ou des souvenirs mémorables?
Ce que j'aime beaucoup de l'été, chez nous, j'ai la chance d'avoir une piscine, devenue souvent. Et ça, c'est un des plaisirs que j'ai au quotidien, de me lancer à la piscine à mon lever.
Ah.
Ce matin encore, je l'ai fait, mais j'aime ça. Peu importe la température, dès que la piscine est installée, j'y vais.
Ouais. Puis un festival, peut-être, que tu retiens en particulier, qui vraiment te fait penser à l'été. Tu dis, moi, là, c'est ce
festival.
C'est
juste un festival à
voir. Festival d'été de Québec.
Ah, okay.
Le Festival d'été de Québec.
Ben, avec un cadre enchanteur comme Québec, c'est sûr qu'on ne peut pas se tromper. Le type de lecture que tu aimes l'été?
Les biographies. Je suis fasciné par les destins des gens.
Ben tiens.
Ouais. C'est nouveau.
C'est nouveau.
C'est une nouvelle passion. Je
nouvelle
sais pas
passion.
Pourquoi.
J'aime beaucoup l'être humain. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, dès que j'ai la chance de voir un parcours distinctif, singulier, j'aime beaucoup lire ça. J'en ai toujours 5-7 à la fois.
Peux-tu en suggérer une ou deux? Ben, une biographie le que t'as vraiment touché.
Ben, le destin. Ben, une Ève Salveille, je parle d'une fille qui vient de Matane, de mon coin de pays. C'est très beau quand elle parle de tous ses podiums parce qu'elle a été, mannequin international. Puis on voit aussi l'envers du décor. Et s'il y a un seul documentaire à proposer aux gens aujourd'hui, c'est aller voir Céline Dion sur Prime parce que ça reste une vision très, très claire. Peut-être le prix à payer pour avoir trop atteint les sommets. Ouais. Je crois qu'il y a une belle... On ne peut pas généraliser, mais ça ressemble à un destin comme celui de Whitney Houston. On dirait qu'il finit toujours mal, ces destins-là. Ouais. Et je constate que Céline, ça ne va pas bien quand on voit ce documentaire-là.
Alors, ça nous fait réfléchir, mais je pense aussi que c'est parfaitement assumé parce qu'elle nous place un petit peu dans une situation... On a l'impression d'être un petit peu voyeur, peut-être, ouais.
Mais c'est le siège qu'il nous donne.
C'est exactement la position qu'on nous donne. Ouais. Alors, ça, c'est assumé. Donc, on n'a pas à se sentir mal non plus.
Mais,
ça nous permet de comprendre des choses.
Oui, mais ça bouscule. Ça pose beaucoup de grandes questions, puis voilà.
Vitement, là, un endroit pour passer ses vacances l'été.
L'Estrie.
Ah.
J'aime l'Estrie.
Ah oui.
On s'en va vivre là. Là, on quitte Boucherville pour aller vivre en Estrie.
Bon, alors c'est ça. Ben parfait. Puis qu'est-ce que tu aimes manger l'été?
Une grande salade avec du homard. Oh. J'aime beaucoup le homard.
La fraîcheur.
La fraîcheur avec des fruits frais dedans. Écoute, je vais me faire ça ce soir avec un petit vin blanc. Tiens.
Ah, ça me donne des idées. Maintenant, faut-il payer le homard? Ça,
oui, mais attention, je vais doucement. Okay. Une fois par deux semaines, je le fais trois fois durant l'été. Tu vois comment je suis raisonnable?
Bon, ben c'est tout pour aujourd'hui. Merci, José Lito Michaud.
Merci à vous.
Merci beaucoup, tout le monde. José. Merci, Nathalie. Merci à Mme Matters d'avoir été là pour nous parler de Cinéparc. Merci, Clarence Robitaille-Meloche, de nous avoir parlé de ta neurodivergence. Alors, ça a été passionnant toute cette heure. Et ben je vous retrouve mardi parce qu'on a congé lundi. Alors, bonne fin de semaine. Bon long congé à tous. Au revoir et à la semaine prochaine.
Bye.
Merci,
bon week-end.
Bye. Au revoir.
Dans un instant.